There's a lonely girl in San Francisco by the Golden Gate. She said she'd give me all I wanted, but I just couldn't wait. I started to picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Getting to the next town, baby. To picking them up, laying them down. Picking them up, laying them down. Picking them up and laying them down. And getting to the next town, baby. There's a pretty brown in Birmingham. Boy, she's little and cute. But when she liked to tie me down, I had to grab my suit and started to picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Getting to the next town, baby. To picking them up, laying them down. Picking them up, laying them down. Picking them up and laying them down. And getting to the next town, baby. I met that lovely Detroit lady and thought my time had come. But just before I said I do, I said I got to run and started to picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Getting to the next town, baby. To picking them up, laying them down. Picking them up, laying them down. Picking them up and laying them down. And getting to the next town, baby. No words for what I feel about a pretty face. But if I stay, I just might miss a prettier one someplace. I thought that picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Getting to the next town, baby. Just picking them up, laying them down. Picking them up, laying them down. Picking them up and laying them down. And getting to the next town, baby. Picking them up and laying them down. Picking them up and laying them down. Getting to the next town, baby. Just picking them up, laying them down. Picking them up, laying them down. Picking them up and laying them down. And getting to the next town, baby.
Vous écoutez JetFM sur le 91.2, sur peut-être jetfm.fr, et nous sommes en direct du festival Midi Minuit Poésie au lieu unique de Nantes, dans l'atelier 2, pour suivre cette 23e édition du festival porté par la Maison de la Poésie. Nous sommes le samedi 14 octobre et il reste encore 1h15 de ce festival et deux propositions qui vont s'enchaîner maintenant dans le salon de musique dans un instant. C'est Antoine Bout pour Soleil Animal qui va proposer une performance. On a d'ailleurs dégagé quelques chaises dans ce salon de musique comme pour pouvoir danser et ce sera peut-être le cas avec Antoine Bout, ce sera certainement le cas sur la dernière proposition qui va avoir lieu à 23h30, Brûler danser de Lisette Lombet et Chloé Dutrèfle avec qui nous avons conversé dans l'après-midi lors de ce long direct radiophonique, ce marathon qui est mis en onde et en son par Jonathan Carras et Élie Ranou que je remercie encore une fois de se prêter à ce jeu de marathon. Donc on rejoint le salon de musique où les présentations vont commencer pour Antoine Bout, Soleil Animal.
Antoine Bout est toujours lui, tout en se réinventant à chaque occasion. Antoine Bout bricole une œuvre hybride, toujours étonnante et surtout détonnante, à travers l'écriture, la vidéo, la création sonore, la bande dessinée ou tout autre support à portée de main. Et bien sûr la scène, où il excelle comme vous allez pouvoir le constater dans un instant. Antoine Bout bricole une œuvre aux multiples facettes, tel un diamant, mais encore et toujours à l'état de carbone, dans son état premier, ou charbon fondamental, essentiel et brut, loin des formatages de rigueur pour une vitrine clinquante. Antoine Bout bricole une œuvre en solo ou en collaboration, à l'occasion de nombreuses rencontres et projets avec des poètes, des musiciens, des vidéastes, des dessinateurs ou de ses comparses de l'armée noire. Et bien d'autres artistes de tout poil, ou aussi de personnes croisées par hasard, qu'il existe ou pas, ce hasard. Antoine Bout est toujours lui, tout en se réinventant par impact et imagination à chaque occasion de détournement. Antoine Bout aime être en compagnie et partager une certaine idée possible d'une autre vie réelle et ou fictionnelle pour décadrer, décaler, déglinguer, injecter quelque chose dans la physicalité de la langue, corporellement, organiquement et dans un certain rapport au monde. Monde-langue, langue-monde sans frontières ou démarcations préétablies, langue-monde à inventer, langue-monde à révolutionner, ensemble, dans une explosion de sens et sons, langue-monde accidentée et instable, langue-monde toujours en mouvement et reformulée, langue-monde à la limite du jeu de la langue-monde vers la chute de la blague. Antoine Bout aime faire des blagues sérieusement. Antoine Bout, comme personne d'autre, a l'art de faire un bref test micro. Bonne performance.
Eh bien, merci et bonsoir. J'ai trouvé une super drogue, le sourire, un truc de malade, ça change tout, c'est dingue, c'est mieux que la picole. Le docteur Bout te conseille de te forcer à sourire en toute occasion, ma sœur, mon frère. Tu veux un sac, mon frère ? Me demande, avec une énorme banane, la fille arabe du night shop à Marseille. Je crois que je suis amoureux, le sourire rend amoureux. Du monde, de l'air qui flotte entre nous. Sourire, c'est comme manger, c'est aimer, faire corps avec, ouvrir les portes du paradis de l'ici et maintenant. Et c'est un cadeau puissant, même aux méchants, c'est un cadeau à faire. Tu te fais méchamment casser la gueule ? Le docteur Bout te conseille de sourire, mon frère. Vas-y, si tu comprends pas pourquoi, si tu comprends pas pourquoi, tu comprendras après. Tu peux chanter aussi. Par exemple, me voici, soleil, me voici comme un enfant. Chante ça et sens comme des myriades de petits soleils crépitent dans ton sang. Voilà. Puis, laisse venir un animal en toi. Sois pas timide, laisse venir un animal. Par exemple, une poule. Voilà, tu peux chanter. Me voici, soleil, me voici comme une poule. Ou alors, un scorpion, ce qui est plus pratique peut-être dans l'hypothèse où tu te fais casser la gueule. Ou un anaconda, pourquoi pas, ou une princesse oie, un merle moqueur, un pissenlit, une ortie, un spermatozoïde d'éléphant, l'ovule d'une biche, le capot d'un scarabée, le garage d'un Bernard l'ermite, la bouche d'une sangsue, le sexe sans sexe d'une guêpe, d'un frelon, la fin d'une puce, d'un poux, d'un morpion. Voilà. Les animaux sont les amis puissants de ta chanson et de ton sourire. Ne sous-estimons pas la puissance de leur présence, de leur absence-présence. Hop ! Ils apparaissent et disparaissent, puis réapparaissent. Ils sont farceurs, rusés, rapides. Ils savent que la vie est une blague, alors il ne sourit pas. Les animaux ne sourient pas car leur existence même fait ce job-là. Leur job égale exister égale sourire. Sourire égale le job en or. Un business d'enfer, un puits sans fond de richesse éternelle. Mais bien sûr, attention, il y a le bon sourire et le mauvais sourire. C'est comme pour les chasseurs. Il y a une juste dégaine à choper. C'est pour ça que je recommande de chanter « Me voici, Soleil, me voici comme... Et là, mettre le nom de l'animal qui nous rend visite. Ça permet de choper une juste dégaine, laquelle, en réalité, nous vient du bide. En réalité, quand on sourit, c'est le bide qui sourit. La preuve, ça expose les dents. C'est américain, sourire. Certes, c'est américain, mais pas que. Le sourire américain n'est jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan des possibles sourires. Ceci dit, le sourire américain est exemplaire de ce que peut un sourire, de sa force performative, de son danger. Le sourire américain, c'est le mauvais chasseur. Le bon chasseur, par contre, il sourit du fond de l'œil. Et ça suffit à faire de lui un ange. Ça y est, il range son arme. Oh, le petit chat! Voyez comme il est visité par son animal intérieur. Il est tout ému, tout mignon. Poutine, ému, caresse une poule. J'ai une vision, là. Je vois Poutine accroupi face à une poule. Il sourit timidement. C'est tendre. Toute la délicatesse du monde se love dans le coin de ses lèvres. Quelle saveur, quelle audace. Mais il est temps de changer de vision quand même. Vite, retournons dans le sourire de la fille du night shop. Tu veux un sac, mon frère ? Je t'aime, ma sœur. Dans tes yeux, dans ton sang, il fait soleil. Ça se lit sur ton sourire comme dans un livre. Pourquoi j'ai pas accepté ce sac ? Quel idiot je suis ! Le sac du sourire, du flash d'éternité, le sac de la compréhension mystique du soleil invisible qui secrètement arrose le monde, le sac de ma sœur qui m'a souri avec une dégaine spéciale, stellaire, cosmique, sans faire exprès. C'est ridicule, elle voulait juste savoir si je voulais un sac, et moi, je vois le Big Bang éclore à travers elle, ses yeux, sa bouche, sa voix qui dit « mon frère ». Mais c'est beau à crever, ma parole. Allô, allô ? La vie mérite d'être vécue. La preuve, quelqu'un m'a dit « tu veux un sac, mon frère ?» Je comprends pourquoi plein de monde veut vivre à Marseille. C'est à cause de la permanence des miracles, du fun de tout le monde famille, de la drogue, de la gentillesse, du soleil animal. Voilà, ça c'était la première partie. Conseil santé. Il y en a trois autres. La deuxième partie, c'est la partie anecdotique. La troisième, c'est la partie théorique. Et la quatrième, attention, la partie hypnotique, c'est-à-dire que je vais vous hypnotiser. Donc, deuxième partie, la partie anecdotique. C'est une histoire vraie que quelqu'un m'a racontée. Et donc, par respect pour cette personne, j'ai tout mis en jeu. Bon, la fin est un peu romancée, mais c'est vraiment la toute fin, d'accord ? Le premier texte que j'ai lu, je l'ai écrit dans le train en revenant de Marseille, donc ça c'est vraiment autobiographique à crever et tout. Mais ici, c'est important de savoir que c'est pas moi qui. Le jeu, c'est pas moi, quoi. Il s'appelle Jean-Philippe. C'est pas drôle, il s'appelle vraiment Jean-Philippe. Avec ma copine, on avait l'idée de nous en aller loin. C'était vraiment important. On a regardé les prix des avions. Le moins cher, c'était pour le Cap-Vert. Enfin non, le moins cher, c'était pour le Luxembourg. C'est donc le deuxième moins cher. Oui, Jean-Philippe est belge, et moi aussi. Sur place, à un moment, donc au Cap-Vert, on a eu à un moment la pulsion d'aller visiter une autre île que celle où il y a la capitale. Oui, parce que le Cap-Vert est un archipel d'îles volcaniques distantes les unes des autres de plusieurs centaines de kilomètres. Pour voyager d'une île à l'autre, il y a des avions. mais ça coûte aussi cher que d'aller de Bruxelles à là-bas. Alors, on a pris des billets pour un bateau moderne, genre qui surfe sur l'eau. Une sorte de catamaran avec des ailerons qui font que la bête sort de l'eau quand elle prend de la vitesse. Ça va à du 70 km/h, ces machins. Voilà la preuve qu'il est belge. Ouais. Comme ça va vite, le bateau entier est fermé, vitré. Pas moyen de mettre le nez dehors. C'est un peu claustrophobique. Il n'y a rien d'autre à faire que de s'asseoir sur une des rangées de banquettes. Avant que le bateau ne parte, on s'est offert un hamburger, un paquet de cacahuètes et un truc à boire au petit bar. Et on a remarqué que la femme derrière le comptoir n'avait pas l'air très contente quand on lui achète tout ça. Elle faisait un peu la gueule, ça nous a étonnés. Mais bon, voilà, on retourne s'installer sur les banquettes. Un peu après le début du voyage, qui dure quand même 12 heures, la femme du bar passe déposer devant chaque personne installée sur les bancs un sac en plastique à vomi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le public qui est en train de spoiler mon histoire. Là. Nous, ça nous a limite vexés. On a failli lui dire qu'on ne comptait pas vomir, qu'on allait bien, qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète. Après, c'est vrai que le Cap-Vert est un endroit déjà solidement avancé dans l'Atlantique. Les vagues, c'est pas la côte belge, évidemment. Et nous, on se les mangeait à du 70 km/h. C'était assez agressif, je dois dire. D'ailleurs, il y avait derrière nous un type, on voyait bien que ça n'allait pas trop pour lui. Le pauvre avait un solide mal de mer, il faisait des drôles de bruits, il s'imaginait que ça allait l'empêcher de vomir. Eh ben non, pas du tout. À un moment, bardaf, il se saisit juste à temps de son sac plastique et vomit copieusement dedans. Je me rappelle que c'est pile au même moment qu'on a vu à travers une des vitres pour la première fois, des dauphins nageaient à nos côtés. Le type allait mieux, ça l'avait soulagé de vomir, mais sa petite opération avait installé une sale odeur dans la pièce, qui était impossible à aérer puisque tout était hermétiquement fermé. Ça nous a coupé l'appétit, on a rangé nos cacahuètes. Un peu plus loin, une femme s'est brusquement mise à vomir, elle aussi. Sa fille pleurait à côté d'elle. La mère s'est arrêtée juste trop tard, elle n'a pas eu l'occasion d'intervenir. Sa fille a vomi par terre. Avec les vagues et les mouvements du bateau, les lignes de vomi dessinaient des trucs abstraits sur le sol. L'odeur aidant, de plus en plus de monde a perdu ses moyens et finalement, c'est la quasi-totalité des passagers qui a lâché la sauce. On était en route que depuis une heure ou deux, et c'était déjà l'enfer à un point difficile à imaginer. L'odeur était insoutenable, les gens qui se dirigeaient vers les toilettes glissaient littéralement sur des flaques de vomi. Ceux qui n'avaient plus la force de se lever pour jeter leur sac à la poubelle tentaient un lancer, mais ça tombait à côté en explosant. Une vieille dame s'est levée en vomissant pour se diriger vers les toilettes, mais trop tard, elle s'était chiée dessus. Avec ma copine, on tenait bon. On pensait à tous ces Cap-Verdiens. On était les seuls touristes dans le bateau. Les autres touristes prenaient l'avion pour aller d'une île à l'autre. On pensait à tous ces Cap-Verdiens qui devaient se taper ce délire à chaque fois qu'ils voulaient rendre leur visite à leur famille, n'ayant pas l'argent pour se payer un billet d'avion. Là, je crois que vous allez vous calmer, parce qu'on a beaucoup pensé aux esclaves aussi. Le Cap-Vert est l'île où les bateaux faisaient une pause avant la longue traversée, qui passaient couchés, entassés, baignant dans leurs excréments et leurs vomis pendant des mois. Finalement, ma copine a senti un truc s'installer dans son bide. Elle s'est dit « Oh merde, non, pas moi ». Or, oui, mais oui, c'était son tour. Elle a d'abord vomi normalement, puis de l'eau, puis sa bile. Puis elle a continué et continué à vomir jusqu'à ne plus arriver à respirer, à tomber dans les pommes et tout. J'avais l'impression qu'elle allait littéralement s'étrangler pour de bon et mourir. La femme du bar l'a repérée, s'est approchée, lui a mis une main sur le torse, la regarder profondément dans les yeux en faisant une sorte de geste magique de son autre main. ça l'a soudain radicalement changé et elle s'est enfin endormie, épuisée. Elle a dormi jusqu'à l'arrivée, tandis que moi, je me concentrais pour ne pas vomir. Je m'imaginais occupé à raconter l'aventure à mes amis au retour ou me concentrer sur les films qui passaient sur les écrans qu'il y avait là au-dessus des fenêtres. Mais ils étaient tous ultra glauques, des trucs de guerre avec des cadavres et du sang en permanence, pas évident. De temps en temps, je voyais des dauphins sauter comme des cow-boys un peu tarés en plein rodéo, de part et d'autre du bateau, et c'était tout sauf sympathique en fait. Il y avait quelque chose de violent dans leur façon nerveuse de nager et sauter qui me révulsait. J'étais certes beaucoup trop sensible, mais quand même, j'avais l'impression qu'ils se foutaient de moi, qu'ils me provoquaient, venaient exprès exciter le coming out de mon vomi. J'avais le choix entre des films de guerre et le spectacle de dauphins joueurs psychopathes pour distraire mon envie de vomir. Eh bien, j'ai choisi les films de guerre. Enfin, dans un premier temps, car à un moment donné, j'ai eu un flash. J'ai fait l'exercice, pour voir, de focaliser mon regard à la fois sur l'écran et sur les dauphins. C'était un peu complexe, mais ça a valu le coup. D'un côté, des bombes, des tripes à l'air, de la fumée, du sang. De l'autre côté, le bleu et le blanc de la mer écumeuse, le corps gris reluisant des dauphins canailles. Bang ! Soudain, donc, j'ai eu ce flash, une vision. J'ai quitté mon corps, qui était au bord du vomissement universel, éternel. J'ai surfé sur mon désir de vomissement et ça m'a propulsé dans les calmes profondeurs océaniques. J'étais soudain presque égal à la profondeur océanique qui sous-tendait notre bateau surmoderne et les dauphins. Je ne sais pas pourquoi, mais soudain, je me suis senti fort, puissant, gras, musclé. J'ai été happé par une sorte de grand rire, puissant, gras et musclé. J'ai très concrètement compris que m'imaginer en tant que baleine fondamentale allait très concrètement me sauver la vie. Alors je me suis transformé en baleine fondamentale. Par la seule petite force de mon imagination. J'ai compris qu'en réalité, cette force de l'imagination était immense, d'autant plus immense qu'on a besoin qu'elle le soit. Et moi, pris au piège entre les bombes, les dauphins et le vomi, j'avais plus qu'une seule manière de m'en tirer, c'était de me transformer en baleine fondamentale. Alors, je l'ai fait. J'étais le fondement du monde, le fond du monde, sa fondation. Pas un socle de pierre, pas quelque chose d'inerte, non, quelque chose d'organique, de gras, de musclé, de mouillé. J'étais une baleine énorme, aussi grande que l'océan, et j'avais le monde sur mon dos. Je supportais le monde, les océans, les guerres, le vomi, je portais tout sur mon dos. Et j'ai senti mon cœur. Et mon cœur de baleine battait comme un gros taré. J'ai vite compris, comme chaque battement du cœur de cette baleine fondamentale était fat comme un Big Bang. Paf ! Fin de chapitre. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 3, qui est la partie théorique. Comme par hasard, la théorie du Big Bang est née sous le capitalisme, avec lequel il partage la pulsion de l'expansion infinie. Le Big Bang est un sale capitaliste dominant. Il est de droite, il est égoïste, c'est un peu le mâle alpha de l'univers. Il se fout de notre gueule, caractéristique qu'il partage d'ailleurs avec les oiseaux. Les oiseaux sont les grandes gueules de la nature. Ils nous regardent de haut, se foutent de nous en permanence. Sous leurs apparences de poètes sonores, ce sont en fait de gros impérialistes. Ils colonisent l'espace sonore avec leur art, leur connerie, leur clownerie, ouais. Les oiseaux sont des petits big bang de merde qui se la pètent clown sonore de la nature. Fun fact, clown vient de clow, qui veut dire motte de terre, pour dire cutéreux. Les oiseaux sont des cutéreux, c'est-à-dire qui comptent sur la terre pour faire vibrer et résonner leur connerie sonore. Connerie, qui vient de con, qui vient de kunus, qui veut dire cône, gaine. Les oiseaux sont des clowns cônes gaines pour des blagues big-banestes impérialistes. Leurs chants hurlés vibrent et résonnent dans les interstices de la terre. Grosse fatigue. Quelle grosse fatigue tout ce bordel génère. Il nous faut une bonne sieste. La sieste est à l'orgasme ce que le Big Crunch est au Big Bang. Je m'explique. Quand l'univers n'en peut plus de s'étendre, il se contracte. C'est vrai, hein, checker sur Wikipédia, il se contracte. Se recontracte jusqu'au point zéro de l'existence générale, qui est, comme par hasard, le point atteint lors d'une bonne sieste. C'est le Big Crunch, qui est une contraction tellement fondamentale, qu'elle génère une nouvelle explosion originelle, qui n'est donc pas si originelle que ça. Ce Big Bounce d'expansion et contraction, c'est une théorie très sérieuse, évidemment. Ce Big Bounce, donc donc en fait, notre Big Bang qu'on connaît, en fait, il y a eu des Big Bounce, enfin des Big Crunch avant et tout. Donc. Ce Big Bounce, et donc Bounce, c'est le rebondissement. Ce Big Bounce d'expansion et contraction fait penser à mort, à la respiration. Respirer hagard, une respiration hagarde. Normal qu'elle soit à garde. Elle est en connexion avec le Big Bang et le Big Crunch en même temps. Elle sieste et jouit. Ce qui nous amène à la partie, la dernière partie, la partie hypnotique. Et donc là, maintenant, je vais vous hypnotiser. Voilà. Vous fermez les yeux, vous êtes décontracté, vous êtes assis sur votre chaise. Vous sentez votre poids. Vous siestez le long de votre poids. Votre poids est le signe avant-coureur du Big Crunch. Siestez le long du Big Crunch. Rétractez-vous jusqu'au point zéro de l'existence. Voilà. Vous n'êtes ni mort ni vivant. Vous êtes inexistant. Ce qui vous vaut un large sourire. Vous souriez. Voilà, vous montrez vos dents. Vous sentez votre souffle se promener le long de vos dents. Voilà, sentez vos souffles se promener le long de vos dents. Vous souriez. Vous sentez votre souffle. C'est un sac plastique. Votre respiration est un sac plastique mystique qui pleure. Imaginez un sac plastique. Il flotte dans le vent. C'est mystique. Vous êtes ce sac plastique. Vous êtes cette synthèse géologique de forêts préhistoriques pétrolifiées par la nuit des temps. Qui maintenant danse dans le vent. Vous êtes dans le vent, du plastique dans le vent. Vous souriez, c'est solaire et animal. Et d'entre vos dents et vos lèvres s'échappe, virevoltant, un sac plastique. Issu du Big Bang, il est en route vers le Big Crunch.
Ses mouvements ondulent le long de la flèche du temps, qui est une aiguille dont le chat est l'explosion originelle. Traverser le chat de l'aiguille du temps qui mène au Big Crunch précédant le Big Bang. Monsieur, dans ce cas, la pointe de l'aiguille du temps s'auto-pénètre le chat. Vous êtes, votre tête est à la pointe, non pas de la flèche du temps, mais de l'aiguille qui perce la membrane du temps. Allez-y, docteur, percez, vous êtes le docteur sieste. Vous êtes une aiguille, vous percez le sac plastique du temps. Vous êtes le chat de l'aiguille du temps. Sentez comme vous êtes à la fois la pointe et le chat. Catapulte et trou noir. Très bien. Vous êtes maintenant hors de l'arnaque du temps. Vous êtes un sac plastique. Vous êtes géologique. Vous êtes le docteur sieste. Vous savez qu'il y a des trous dans le temps. Des trous qui sont des coprésences des temps. Vous siestez. Hop ! C'est non pas l'aventure, mais l'advenue d'une flopée de mondes parallèles. Une envergure siestée, floue. Votre respiration est un sac plastique mystique qui pleure. Votre respiration est un sac plastique mystique qui pleure. Allez-y, pleurez discrètement, par petites saccades. Par petites saccades de votre gorge. Vous chialez des larmes sonores, big bangesques. Vous surfez sur l'expansion éperdue de l'univers. Mais vous croyez au Big Crunch aussi. Vous êtes un sac plastique qui virevolte pile entre le Big Bang et le Big Crunch. Vous êtes un sac plastique coincé dans la gorge de quelqu'un qui sourit et n'existe pas. Vous hurlez sans hurler. Au secours, à l'aide. Vous ne savez plus très bien si vous êtes un sac plastique coincé dans une bouche et une gorge, ou bien une gorge qui est étouffée par un sac plastique. Vous pleurez, allez ! Mais votre pleur vire au rire. Car le rire est au pleur ce que le Big Bang est au Big Crunch. L'important, c'est le Big Bounce. Le battement, les secousses communes aux rires et aux pleurs. Allez-y, allez-y. Elle est timide. Hein. Alors, j'ai une astuce. Je vais vous couvrir. Vous êtes comme vous êtes en sous hypnose. Je vais faire des sons là, qui vont un peu couvrir l'ambiance sonore et comme ça, après, vous, à l'intérieur de ces sons, vous serez à l'aise pour faire tout ce que vous voulez, chialer, pleurer comme un sac plastique. On est parti ? Allez, allez, ça marche. Oh. très bien. Voilà. Voilà, très bien. Très bien, je vous entends. Je vous entends là. Vous klaxonnez comme des oiseaux. Et maintenant, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Et oui, vous êtes tout simplement ici. Et c'est fini. Merci.